Agassi.
Elle aimerait bien jouer avec mon micro.
Oui, Sandeka, il est toujours curieux déjà lorsqu'il voit des visiteurs.
Là, c'est Matavishi qui prend la bouillie. C'est leur petit déjeuner.
On m'appelle Mathieu Chamavou. Je suis garde du parc au sein du parc national de Virunga. Je m'occupe du gardiennage des bébés gorilles orphelins.
Ici, c'est là que passent ces bébés gorilles leur nuit. Nous avons 4 cages et la journée à l'extérieur. Là, bientôt, nous allons les faire sortir. Et ce sont des gorilles de montagne. On avait tué leurs parents. Et c'est pour ça qu'on avait récupéré ce bébé gorille, par exemple Ndakasi ici, qu'on avait récupéré dans la forêt lorsqu'il avait seulement 2 mois. Lorsqu'il y a des massacres de gorilles, ce n'est que des sabotages. Et ceux qui sont contre la nature, parce que les gorilles nous apportent des touristes, et c'est pour ça qu'on est en train d'investir ici aux alentours du parc. On nous amène des courants, de l'eau. Grâce à l'intérêt de la conservation, particulièrement des gorilles.
Le parc national des Virunga est le plus ancien parc naturel d'Afrique, le plus vaste aussi. Il est notamment célèbre pour abriter les gorilles des montagnes, une espèce menacée d'extinction, dont il reste moins de 900 individus en liberté. Le directeur du parc, nommé en 2008 par les autorités congolaises, est un Belge. Emmanuel de Mérode a fait de la survie des Virunga un combat auquel il consacre toute son énergie. Une tâche difficile et dangereuse, alors que le parc est l'épicentre des conflits qui ravagent l'est de la RDC.
C'est un parc qui n'a pas été gâté par rapport à la situation politique. La République démocratique du Congo a connu 20 années de guerre civile et ça a eu un impact terrible sur le parc, ça a eu un impact terrible sur les gens. On s'est toujours retrouvé à l'épicentre des grands conflits armés qui ont eu lieu dans la région des Grands Lacs et au Congo. Et le personnel du parc n'a pas été épargné. On a perdu 154 de nos gardes depuis que la guerre a commencé. Et malheureusement, c'est quelque chose qui continue. Cette année, on a perdu 5. Dans des conflits avec les groupes armés. Ils sont à l'intérieur du parc. Ils viennent pour se servir des ressources ou bien pour s'attaquer aux populations qui passent à travers le parc pour les piller.
Vous-même, vous avez été directement visé?
Il y a un peu plus de 2 ans. Mon véhicule a été attaqué. J'avais été blessé par balle. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu m'en sortir avec de l'aide. 2 jeunes personnes du village qui très courageusement sont sorties, m'ont récupéré. J'ai pu atteindre l'hôpital. Beaucoup de mes collègues n'ont pas eu cette chance de pouvoir s'en sortir.
En tentant de mettre fin au braconnage et à la déforestation, Emmanuel de Mérode et ses rangers se sont fait de nombreux ennemis.
On m'appelle Diela, je suis garde-parc. Ce que nous faisons, c'est la conservation de la nature. Lutte anti-braconnage et lutte contre la déforestation. Parce que sans la conservation, il y a la nature qui va se détruire et nous aurons difficile pour la vie humaine. Si alguna question éclairée, on a fongu la moindre.
Dioela Kachemba et ses 4 collègues portent l'uniforme vert kaki de l'Institut congolais de conservation de la nature, des bottines noires et leur arme en bandoulière.
Vraiment, je dirais que c'est un beau métier, mais qui est très dangereux. Allez-y. Ici, nous sommes en patrouille. Ça, c'est AK-47. Et on a des munitions. Eh bien, si on trouve, par exemple, les groupes de Maïmaï, il y a les groupes de Blakoni qui sont armés, il y a les FDLR, on est obligé de s'affronter avec eux pour essayer de se libérer de la menace. On devient ennemi presque de tout le monde. La population est obligée d'aller se ravitailler dans les parcs pour chercher un moyen de vivre. Et nous sommes là pour essayer d'arrêter ça. Et là, nous devons vivre en conflit avec cette population.
Dans cette région pauvre et très peuplée, chaque lopin de terre fertile est précieux. Les Virunga couvrent un espace immense où les habitants n'ont pas le droit de chasser ou de cultiver. Et les ressources qui se situent dans ce périmètre sont très convoitées.
On
on a une population qui est une des populations les plus pauvres de la planète, qui ont terriblement besoin de terre. Pour ces populations qui vivent autour du parc, 800 000 hectares sont perdus. Les pressions sont énormes. Et si on ne travaille pas avec cette population, on est voué à l'échec.
Kiwanja, une cité rurale entourée de collines, à 60 km environ au nord de Goma, a vu se succéder les rébellions au cours des deux dernières décennies. En 2013, le mouvement rebelle M23 avait pris le contrôle de la localité avant d'en être délogé par l'armée régulière. Mais aujourd'hui encore, les groupes armés, rebelles rwandais ou tous du FDLR ou milices Maïmaï, pullulent dans la région. Une situation qui ne favorise ni le retour à la paix, ni les investissements. Jérôme Tanzi travaille pour la Fédération des organisations du développement, une ONG congolaise. Il tente de sensibiliser les populations et de les encourager à préserver le parc.
Nous sommes à Kiwanja, juste dans le territoire de Rutshuru. C'est une agglomération qui compte plus de 200 000 habitants avec le territoire de Rutshuru. Il y a vraiment l'environnement qui est en décadence du fait qu'il y a l'augmentation de la population et puis il y a aussi des problèmes de sécurité à grande échelle. C'est un milieu endémique de guerre. Il y a des groupes armés. Donc le parc national de Virunga est proche de nous et c'est là où ça regorge les bandits armés qui insécurisent le milieu.
Et le parc, il est où?
Oui, juste ici devant nous, à quelques 4 km d'ici, nous sommes dans le parc. La limite est là, sauf qu'on a envahi. La population, elle est paupérisée avec ces guerres que nous vivons. Alors les gens cherchent la survie dans le parc. Ils entrent dans le parc pour couper du bois, pour faire des braises, pour aussi tuer les animaux, pour leur survie. Et ce n'est pas pour dire qu'ils ne connaissent pas que c'est le parc, c'est un domaine de l'État. Un affamé n'a pas d'oreilles. Ils n'ont pas le choix parce que la vie, la misère, depuis plus de 20 ans qu'ils sont dans la guerre. Mais s'ils avaient d'autres alternatives, ils pouvaient en utiliser comme on est en train d'avoir du courage qui s'amène. Ça pourra nous aider aussi pour un peu pallier à ce problème. Et je pense que ça pourra vraiment avoir un impact sur la consommation du bois dans le parc.
Dans ces villages sans électricité, le charbon de bois, le makala, comme on l'appelle ici, est la principale source d'énergie pour se chauffer et cuisiner. Les vendeuses de makala sont partout sur les marchés et le long des routes. Mais une grande partie de ce charbon est produit illégalement avec du bois coupé à l'intérieur du parc.
Devant nous, vous voyez les braises qu'on est en train de vendre ici. Les deux commerces, vous voyez tout ça après, tout près de nous. Et ils vivent à base de ça et ça vient du parc.
Elle est née
ici, mais malheureusement, ils n'ont pas de champ propre à eux. Et c'est ainsi que pour le moment, avec ses 9 enfants, ils sont difficiles à survivre. C'est ainsi que pour survivre, le mari et elle doivent aller dans le parc pour chercher des braises, du bois, parce qu'ils n'ont pas autre moyen de survivre, parce qu'ils n'ont pas leur propre terrain.
Le parc est un endroit dangereux, c'est la pauvreté qui nous pousse à y aller. Quand nous allons dans la forêt, les militaires nous attendent près de la rivière pour nous attraper et nous devons fuir. Nous savons que c'est interdit, mais il y a beaucoup de problèmes ici, il n'y a pas de travail. Alors nous allons dans le parc avec nos maris pour produire du charbon de bois. Il y a des patrouilles et parfois on nous tire dessus. Nous avons peur, mais après une semaine, nous sommes obligés d'y retourner parce que la vie est difficile. Les soldats patrouillent pour trouver les FDLR, et quand ils nous voient, ils peuvent penser que nous sommes les femmes des FDLR, et c'est pour ça qu'ils nous pourchassent.
Et les FDLR, eux, ils vous posent des problèmes parfois?
Est-ce que les FDLR avaient été Si quelqu'un va couper des braises là-bas, un civil, il donne d'abord 5 000 francs pour avoir un terrain où il peut couper les braises. Et à toute période de production de braises, il donne 10 000 francs à ces
FDLR.
Donc c'est 50 000 francs. Il trouve au moins 5 sacs de braises par mois. Et un sac de braises, c'est 10 000 francs. Ça fait 50 000 francs. Dans les 50 000 francs, il doit donner 10 000 francs aux FDLR. Il donne aussi à FRDC parce qu'il donne des rançons aux militaires. Il reste presque avec 30 000 francs.
Donc ça fait 30 dollars à peu près par mois, après avoir payé les FDLR et les FARDC. Parce que vous devez aussi payer les FARDC.
10 000 francs.
Tous les mois.
Oui.
Donc il reste pas grand-chose à la fin.
Le trafic de charbon de bois générerait chaque année jusqu'à 35 millions de dollars. Une activité lucrative dont beaucoup d'acteurs de la région tentent de tirer profit. Des éléments de l'armée régulière, les FRDC, prélèvent des taxes informelles sur les bûcherons et les transporteurs en échange de leur bienveillance. Et le commerce de Makala qui décime la forêt finance aussi les groupes armés.
La grande partie de l'activité économique se trouve dans le secteur informel. Une partie extrêmement importante, c'est tout ce qui est trafic des ressources naturelles. Et le trafic des ressources naturelles, c'est également ce qui finance les groupes armés. Parce que quand les jeunes se lancent dans des activités illégales, ils ont besoin d'être protégés contre l'État, contre les forces de l'ordre. Et pour être protégés, ils ont besoin des groupes armés. Donc ils payent les groupes armés afin de pouvoir couper le bois pour faire du makala. Le charbon de bois, c'est un racket.
Les défis sont immenses, mais Emmanuel de Mérode est pourtant plein d'espoir. Pour lui, la survie du parc des Virunga passe par le développement. Pour cela, il faut de l'énergie. Pour la produire, le directeur du parc a lancé la construction de centrales hydroélectriques sur les cours d'eau qui traversent les Virunga. Et il a réussi à convaincre investisseurs et mécènes de le suivre dans ce projet gigantesque.
À un certain niveau, c'est un projet très simple. On essaye de fournir de l'électricité pour une population qui est très importante, les gens qui vivent autour du parc. L'électricité est d'une valeur énorme pour le développement économique. C'est ça qui crée de l'emploi parce que ça permet la création des petites entreprises en particulier qui ont besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. Et on estime qu'avec chaque mégawatt d'électricité qu'on arrive à créer à partir du parc, on peut créer environ entre 800 et 1000 emplois. Il y a quelques années, il y avait une étude pour examiner le potentiel du parc qui a établi que le parc pouvait créer disons entre 100 et 120 mégawatts, ce qui est plus ou moins le double de ce que produit tout le pays du Rwanda à l'heure actuelle. C'est 25 fois plus que ce que la province du Nord Kivu produit. La province du Nord Kivu a deux fois la taille de la Belgique et une population qui est presque la même que celle de la Belgique. Donc c'est un parc qui peut rendre énormément service à la relance économique à travers l'énergie renouvelable, de l'hydroélectricité.
Et qui finance ?
La première centrale, c'est un projet assez courageux de l'Union européenne qui a été lancé dans le cadre des programmes de relance économique après la guerre. C'est ça qui nous a permis de former nos équipes, les ingénieurs civils et les ingénieurs électromécaniciens qui puissent développer ces projets. Ensuite, il y a eu ce second projet qui est celui de Matebe, qui a été financé par la fondation Howard Buffett. Et puis maintenant, on travaille sur 3 centrales. Donc on espère en avoir 5 de construites d'ici 2 ans. Et celles-là ont été financées d'une part par l'Union européenne, d'autre part par Howard Buffett, mais aussi une troisième source de financement qui est tout à fait nouvelle pour nous. On a obtenu un prêt de l'institution d'investissement britannique, CDC, qu'on doit rembourser donc dans les 10 années qui viennent, donc un prêt de 9 millions de dollars. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est le premier projet bancable qui a été financé à l'est de la RDC depuis 1985. Donc c'est tout un nouvel instrument financier où on ne travaille pas sur des dons, mais sur des prêts. Pour nous, ça a été une des choses les plus encourageantes cette année.
La centrale de Matebe a été inaugurée en décembre 2015, à 70 km au nord de Goma. Le projet, qui a coûté 20 millions de dollars, permettra de produire 13,6 MW d'électricité. Au milieu des collines, la centrale de Matebe est nichée dans un paysage magnifique. Sandrine Eman, jeune ingénieure bruxelloise, est en charge de l'exploitation et de la mise en place du réseau.
Pour l'instant, on utilise autour de 2 mètres cubes seconde et donc tout le reste va dans la rivière. On aura toujours de l'eau qui va couler dans la rivière, même en saison sèche, pour minimiser l'impact environnemental.
Donc c'est ici que l'eau est canalisée.
Oui. Ici, on a les 3 vannes qui gèrent l'accès à la rivière. Donc en fonction du niveau d'eau qu'on a là, on va plus ouvrir ou moins ouvrir pour gérer la quantité d'eau qu'il y a dans le canal. Et donc on a dû dévier toute la rivière pour construire tout cet ouvrage. Ça a été un fameux boulot. Et en fait, ce genre d'installation, une installation au fil de l'eau, l'avantage, c'est que juste là, 100 mètres par là, on ne voit pas qu'il y a une centrale, mais on ne veut pas travailler avec des barrages pour les risques sécuritaires que ça amène et pour l'impact environnemental.
Et le débit est toujours suffisant ?
La centrale a été calculée pour qu'il y ait toujours un débit suffisant et qu'il y ait toujours un minimum d'eau qui coule dans la rivière pour garder tous les écosystèmes en place.
Et donc au niveau hydroélectrique, il y a beaucoup de potentiel ici?
Oui, autour du parc, il y a beaucoup de potentiel. On est dans une zone, on peut voir ici tout autour, aujourd'hui c'est un peu nuageux, mais tout autour on est entouré par des volcans. Il y a le Mikeno, il y a le Carisimbi, le Savigno. Vers le nord, il y a les Rwenzori, qui sont la grande chaîne de montagnes qui culmine à plus de 5000 mètres. Et donc il y a énormément de relief, il y a beaucoup d'eau, et donc il y a forcément beaucoup de potentiel hydroélectrique. Ça n'a pas été très difficile de le remblayer et déblayer assez que pour pouvoir faire ce canal et avoir ensuite cette différence de niveau. On a 85 mètres de chute nette, on a des conduites qui font que 450 mètres. C'est un site parfait pour ce genre d'installation. Les conduites forcées démarrent juste ici et descendent tout droit vers l'usine. La centrale de production en fait. C'est le petit toit blanc qu'on voit là en bas. C'est la salle des machines. Alors on a trois turbines de 4,47 MW chacune, donc on a 13,5 MW au total. Pour l'instant, il y a une turbine qui est en service, il y a les deux autres qui vont être mises en service bientôt. Donc là, on a une capacité de production de 4,47 MW.
Ça représente quoi?
Alors, il faut faire très attention parce que la différence entre le nombre de foyers qui peuvent être accordés chez nous en Belgique ou le nombre de foyers qui peuvent être accordés ici est complètement différente, bien sûr. On va parler des 13 MW qui est l'entièreté de la centrale. Ce qu'on aimerait bien avoir, c'est entre 5 et 10 000 foyers et tout le reste qui serait utilisé par les industries. Ici, la consommation, c'est quelques prises, quelques ampoules. Sur les prises, il y a parfois un frigo, souvent une radio, les recharges des téléphones. Et c'est ce qui fait qu'on peut toucher tellement de gens. Il faut savoir qu'à Goma, sur toute la ville de Goma, aujourd'hui, il y a 5 MW qui sont distribués. Donc vous pouvez imaginer ce que ça représente, les 13 MW et demi qu'on a ici. C'est incroyable.
Le long de la route qui mène à Goma, des ouvriers installent les nouvelles lignes électriques. Près de 2500 foyers ont déjà été raccordés au réseau, réduisant la dépendance au charbon pour ces familles.
Bienvenue chez nous. Bienvenue dans notre maison. Je réponds au nom de Anne-Marie Bougonde. Nous vivons ici, avec la famille et les enfants et les tout de la famille placés. En tout cas, nous sommes très contentes parce qu'on était dans l'obscurité. Comme éclairage dans la maison, on débrayait de pétrole, on chargeait aussi des batteries avec des panneaux solaires, mais c'était toujours, vraiment, ce n'était pas permanent.
Et là, vous avez l'électricité depuis combien de temps?
Ici, il y a 2 mois.
C'est tout nouveau?
Oui, c'est nouveau. Il y a la cuisine, la chambre des enfants. En tout cas, il n'y a pas une partie de cette maison qui n'est pas éclairée. Même la nuit, on ne peut pas manquer comment on va manger, on ne peut pas manquer les assiettes. Il y a des prises au salon qui alimentent notre congélateur.
Le frigo?
Oui. Et l'autre, c'est pour ces télévisions. Les enfants, ils sont sous la télévision, ils sont en train de voir très très bien. Et aussi, ce qui est très très utile encore, c'est pour préparer. On prépare ici. Pour préparer, on utilisait les charbons. Et je pense qu'avec les braseros, pour l'hygiène, ce n'est pas facile de gérer la cuisine.
Ça vous coûtait combien à peu près par mois?
Chaque mois, c'était 18 dollars.
Un sac de charbon?
Oui, c'était un sac qui coûtait les 18 dollars. Dans un mois, on terminait ça.
Le raccordement au réseau et la consommation pendant un an coûte une somme forfaitaire de 200 à 500 dollars par foyer. Une somme malheureusement très difficile à rassembler pour une majorité de petits agriculteurs. Mais les initiateurs du projet espèrent que la production d'électricité développera l'économie de la région et offrira de nouvelles sources de revenus. Au cours des prochaines années, ils espèrent générer indirectement jusqu'à 100 000 emplois.
Ça permet aux gens de créer des petites entreprises de transformation agricole. Donc ça peut être des moulins, ça peut être de la glace pour transporter le lait, la viande, le poisson. Ça permettra aux Congolais de s'approprier de leurs propres ressources, d'en tirer toute la valeur ajoutée. Un exemple, c'est l'huile de palme qui est produite de façon artisanale à travers tout le territoire de Beni dans le nord. Il y a une année, toute cette huile de palme était transportée plus de 1000 km à Bujumbura, était transformée en savon et puis ramenée au Congo et vendue à un prix très élevé. Avec la création de la première centrale hydroélectrique à Mutwanga, dès que l'électricité était disponible, une électricité qui était fiable et pas chère, des investisseurs sont venus, ils ont construit une usine de production de savon qui aujourd'hui aujourd'hui produit 40 tonnes de savon par jour.
Alors, on est dans une zone qui est extrêmement surpeuplée, en créant des emplois, des entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas, paradoxalement, un risque de mettre plus de pression encore sur la région en attirant des populations supplémentaires ?
Oui, c'est quelque chose qu'on doit suivre de très près. Mais le problème, ce n'est pas tellement le fait qu'il y a trop de gens. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de terres. Donc, le problème, c'est de leur trouver de l'emploi dans l'industrie et non dans l'exploitation de la terre.
À Matébé, le site de la centrale électrique abrite aussi un petit centre de formation.
Ici, on a la zone des ateliers. Donc ici, on a l'atelier mécanique, le garage et les soudeurs. Derrière, on a la menuiserie. On a les stagiaires qui viennent ici. Pour l'instant, ici à Matébé, on a deux stagiaires au garage et à l'atelier mécanique. On a un stagiaire à la menuiserie. On a deux stagiaires à la centrale hydroélectrique. Et on a deux stagiaires sur le réseau. Les gens sont vraiment très très demandeurs de formation ici dans la région. C'est incroyable la motivation que les jeunes et les moins jeunes ont pour apprendre des métiers. Il y a vraiment un trou à combler à ce niveau-là.
Ce projet d'hydroélectricité peut amener beaucoup d'emplois à terme ?
Bien sûr, il y a toutes les industries qui vont utiliser notre courant et qui vont engager de plus en plus de personnel. En termes d'emploi direct, on a 1150 personnes qui travaillent aujourd'hui à Matébé. C'est 1150 personnes qui ont de l'emploi. Et c'est tous des gens qui, avant, n'avaient pas de travail fixe. Alors maintenant, on arrive au bureau qu'on appelle le Business Center. Donc ça, vous allez voir, c'est un magnifique bâtiment. La vue est époustouflante. Il y a une salle de conférence et une salle de classe qui va servir d'incubateur pour toutes ces petites entreprises. Donc on a déjà fait des formations ici avec toute une série d'entrepreneurs pour leur apprendre les bases de l'entrepreneuriat, les bases de la comptabilité, comment tenir un projet. Nous, on leur met aussi des crédits à disposition. Donc on est en train de mettre en place un système où on va leur prêter de l'argent et eux vont rembourser sur leur consommation électrique. À partir du moment où on va installer les compteurs, les compteurs à prépaiement. Et c'est ça, toute cette masse d'emplois indirects qu'on aimerait qu'il soit créé autour de l'électricité qui est produite par Matébé.
Le potentiel est énorme. En offrant des alternatives à la population démunie, les centrales hydroélectriques pourraient non seulement protéger le parc des Virunga, mais aussi peut-être briser la dynamique d'économie de guerre actuellement en place dans la région. À condition que la dégradation de la situation sécuritaire ne mette pas le projet en danger avant qu'il ne puisse faire sentir ses retombées.